Bonjour à tous et bien revenue pour notre troisième épisode sur l'Alia, cette réalisation extraordinaire de la volonté du Créateur où le peuple d'Israël revient sur sa terre. Troisième épisode. Alors, dans la première partie, nous avions expliqué eh bien, à quel point cette volonté de revenir à Sion n'est pas née d'hier. Ensuite, dans notre deuxième partie, nous avons expliqué que l'Alia était bel et bien une mitzvah. Et là, eh bien, je me permets de préciser une petite chose, parce que peut-être que les non-hébraïsants eh bien, n'auront pas compris. Une mitzvah, en français, le terme de mitzvah ne veut pas dire une possibilité, une éventualité, une proposition. Mitzvah veut dire une obligation. Quand on parle d'avoir une mitzvah, de faire le kiddush de Shabbat, c'est une mitzvah positive, eh bien, c'est obligé dans le judaïsme. Alors, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais celui qui décidera de ne pas faire le kiddush, eh bien, il transgressera une mitzvah positive de la Torah. Mitzvah ne veut pas dire c'est une bonne action, si je veux, je le fais, si je ne veux pas, je ne le fais pas. Une mitzvah, c'est obligatoire. Alors, maintenant qu'on a expliqué qu'il y avait donc une mitzvah, eh bien, s'éveille en moi une question. Mais n'y aurait-il pas un interdit, bien au contraire? Parce que si on a expliqué qu'il y a un avis qui a été rejeté, qui disait que la mitzvah n'avait plus cours pendant un certain temps, alors on a expliqué que c'était pas vrai. Mais je me dis, mais peut-être qu'il y aurait une source très ancienne qui me dit qu'au contraire, il est interdit de faire l'alia. Eh bien, cette source existe. Nous sommes dans le traité de Ketubot. Dans le traité de Ketubot, dans le Talmud, à la page 110 et 111, ça va continuer, c'est une longue de sugya. Eh bien, là-bas, il est fait référence à un grand Talmud Raham qui s'appelle Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'est pas n'importe qui, il est le Rosh Yeshiva de Pumpedita. Il est fondamentalement opposé à l'Alia. Et il va même jusqu'à dire que, à propos du verset de Jérémie, du prophète Jérémie, qui dit que Dieu nous a amenés à Babylone et qu'il va falloir y rester, va bavela yavu vesham isharu, eh bien, nous dit Rav Yehuda, de là, on apprend que tout celui qui sort de Babylone pour aller en terre d'Israël transgresse un commandement positif de la Torah, à savoir de rester à Babylone. Alors, c'est un avis extrêmement dur. Quoi ? Faire son alia serait une avéra ? Non, chas v'shalom. Ne vous inquiétez pas, son élève, Rabbi Zeira, eh bien, va tout de suite dire pas du tout le verset dont tu parles, tu fais allusion, mon maître, eh bien, ne parle pas du Am Israël, mais parle bel et bien des ustensiles du Beth Amikdash. Donc, ces ustensiles-là, eh bien, tant que Dieu ne décidera pas de les ramener, eh bien, ou alors qu'on ne les trouvera pas, on ne les trouvera pas. Mais Rabbi Zeira rentre maintenant dans le bain et dit, bon, bah, d'accord, mais alors, quelle est ma position par rapport à l'Alia? Car Rabbi Zeira n'est pas un inconditionnel du sionisme. Rabbi Zeira veut partir en Israël. C'est la suite de la Gemara qui le raconte également dans le traité de Shabbat. Il veut partir en Israël. Mais pour lui, il y a une grande différence entre la dimension d'alia individuelle et l'alia collective du peuple juif. Il est fondamentalement lui aussi opposé à l'alia collective. Et ce pourquoi? Eh bien, suite aux trois serments. Quels sont les fameux trois serments? Shlosh tashvuot. Eh bien, la Gemara, dans le traité de Ketubot, toujours, eh bien, nous explique que dans le livre de Shira Shirim, il est mentionné trois fois le verset Ishbaati etrem benot Yerushalayim im teoreru et ahava tcheterpat. Je vous ai fait prêter serment, fille de Jérusalem, de ne pas im teoreru, de ne pas réveiller l'amour avant qu'elle ne se réveille. Et de là, Rabbi Zeira nous dit qu'il y a trois serments que nous n'avons pas le droit, parce que trois fois il a dit « je vous ai fait prêter serment », il y a trois serments. Le premier, nous dit Rabbi Zeira, c'est quoi? Eh bien, c'est que nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les nations. Le second, qu'on n'a pas le droit de conquérir la terre d'Israël en force, avec une armée. Et le troisième, c'est que les nations n'ont pas le droit de nous asservir trop. Alors, la Gemara continue et nous dira qu'en fait, il y a peut-être en fait six serments et pas seulement trois, mais les trois qui nous intéressent sont les trois premiers. La question est maintenant posée, est-ce que Rabbi Zeira, eh bien, ne vient pas nous dire qu'en fait le sionisme, de manière générale, c'est quelque chose d'interdit, c'est une transgression des trois serments? Eh bien là, tout de suite, il va falloir répondre de manière très simple. Cette Gemara cette sugya, cette étude dans le traité de Ketubot, selon tous les commentateurs, tous, n'est pas un texte de halakha, mais c'est un texte de agada. Ce qui veut dire que cette Gemara n'a pas une vocation halakhique, mais a une vocation de nous raconter une histoire pour nous apprendre comment réfléchir. Donc, les trois serments n'ont pas vocation halakhique à la base. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent rien dire, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Eh bien, c'est le contrat de réussite de l'exil. Akadosh Baruch Hu a envie, à un moment donné, que le peuple juif soit en exil, pour plein de raisons. Un, parce qu'on a fauté. Deux, parce que, eh bien, Tikkun Olam, il va falloir aller récupérer les étincelles de sainteté en exil. Et donc, Akadosh Baruch Hu a ses plans, et il veut qu'on ait en exil. Pour que l'exil, eh bien, fonctionne, nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les nations, parce que, t'imagines, nous n'avons pas le droit d'essayer de conquérir la terre d'Israël, parce que sinon, bah, c'est plus l'exil, et les nations ne peuvent pas trop nous asservir, sinon, bah, il n'y a plus Am Israël en exil. Mais c'est pas que c'est une interdiction, c'est que c'est le contrat de l'exil. En d'autres termes, tant que l'exil doit être, eh bien, ces trois serments font que ça ne marchera pas. Si tu te révoltes contre les nations, ça ne marchera pas. Si tu essayes de créer un État en Israël, ça ne marchera pas, et ainsi de suite. Cependant, nous parlons aujourd'hui en 2021. Donc non seulement ce texte des trois serments n'est pas à vocation halakhique, mais disons qu'il l'était. Eh bien, aujourd'hui, en 2021, de toute façon, les trois serments sont tombés. Eh oui, pourquoi ils sont tombés ? Eh bien, tout d'abord, car le serment de ne pas se révolter contre les nations fait référence à une fois que tu es chez eux. C'est-à-dire, à partir du moment où on est ici, en Eretz Israël, eh bien, ça ne s'appelle plus se révolter contre les nations. D'autre part, les nations nous ont permis de venir conquérir la terre d'Israël, puisqu'il y a eu la déclaration Balfour qui a été ensuite ratifiée à San Remo en 1920 et 22 par la SDN, la Société des Nations. Donc les nations nous ont permis de revenir nous installer en terre d'Israël. Il ne s'agit donc plus de révolte contre les nations. Et donc le deuxième serment où on a interdiction de conquérir en force, eh bien oui, quand les nations ne nous laissent pas, mais quand les nations nous le permettent, eh bien, il n'y a plus de problème. J'en passe évidemment sur le vote des Nations Unies en 1947. En 1922, lorsque à San Remo est signée la déclaration Balfour, le Meshech Chochma, Or Sameach, le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, nous écrit « Sar Pachad HaShevuot, la peur des serments est tombée, la mitzvah de reprendre possession de la terre d'Israël n'a plus aucune excuse. » Et c'est ainsi également qu'écrira le Chafetz Chaim, qui est rapporté dans le livre de son fils, Toldot Chafetz Chaim, où lorsqu'il a entendu la déclaration Balfour, eh bien le Chafetz Chaim a dit « Dos is dos, ze ou ze, les serments sont tombés. » Donc même si on pouvait penser que les serments avaient une réalité halakhique, eh bien aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc dans tous les cas, il n'y a absolument aucune interdiction, bien évidemment, de venir en Israël, non au niveau collectif, mais pas non plus au niveau individuel, car même à l'époque, Rabbi Zera est venu en Israël. Il est venu en Israël d'ailleurs, il avait beaucoup de mal, parce que son maître, on l'a dit, était contre l'Alia. Et lui, il voulait, mais il ne voulait pas rencontrer son maître pour que Rav Yehuda ne lui interdise officiellement. Il ne voulait pas se mettre dans cette situation négative. Le Talmud nous dira que pourquoi est-ce qu'on nous a raconté cette histoire-là ? C'est une question qui est posée sans réponse dans le Talmud. Mais Baal Afla de la famille des Horowitz, de la descendance de Rabbi Ishayahu Alevi Horowitz du Shla, Baal Afla nous dit pourquoi le Talmud a raconté cette histoire-là ? Eh bien, pour nous dire que Rabbi Zera n'avait pas à écouter Rav Yehuda. Car évidemment, on doit obéir à son maître. Mais on doit obéir à son maître autant qu'on doit obéir à ses parents. À savoir, tant qu'ils nous disent de faire quelque chose qui ne transgresse pas la Torah, on doit les écouter. Mais si nos parents ou notre maître nous dit de faire quelque chose qui transgresse la Torah, on ne doit pas les écouter. Or, il y a une mitzvah d'habiter en Israël. Donc même si mon Rav me dit de ne pas y aller, eh bien, je ne dois pas l'écouter. Rabbi Zera monte en Israël. Mais il a toujours cette connotation de l'alia, c'est pour l'individu, ce n'est pas pour le collectif. Il a envie de monter, mais juste avant de partir, il veut quand même entendre un dernier Dvar Torah de son Rav Yehuda. Et donc, pour ne pas avoir à le rencontrer, il se cache de lui. Et il va, eh bien, le suivre pas à pas, toujours derrière lui pour entendre ce qu'il a à dire, mais qu'il ne se fasse pas voir. Si bien qu'un jour, il le suit jusqu'au Bet Merchatz, au terme, au bain public. Et il se met derrière comme ça à la fenêtre et il entend. Et il entend son maître Rav Yehuda dire « Donnez-moi un peigne ». Seulement, attention, il le dira en hébreu. « Hevuli masrek ». Et Rabbi Zer a dit « Si seulement je n'avais entendu que ça, ça m'aurait suffi. C'est l'enseignement que j'avais besoin pour partir en Israël. » Quel enseignement ? « Donnez-moi un peigne ». Nous sommes à Babylone. Les Amoraïm, les rabbins de Babylone, ont l'habitude de parler en araméen. L'hébreu n'est utilisé que pour citer des versets. Tout d'un coup, Rav Yehuda, au Bet Merchatz, il n'y a pas plus chol que ça, parle en hébreu. Et Rabbi Zera dit, voilà l'enseignement que j'avais besoin d'entendre. En Eretz Israël, la Kedusha de l'hébreu, la Kedusha, tout simplement, eh bien, n'est plus seulement au Bet Amidrash, mais elle est partout. Elle est dans le monde du chol, on arrive à y trouver également la Kedusha. Il part en Israël, mais fort encore de son enseignement d'exil et de sa problématique des trois serments, il est tiraillé entre son idée individuelle de monter et le destin collectif du peuple juif. Il va arriver au chouk, nous racontons dans le Talmud, et là-bas, il va, je sais pas, acheter des cornichons, et le vendeur reconnaît son accent babylonien et lui dit « Je te hais, babylonien !» Il dit « Comment ça, tu me hais? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il dit « À cause de toi et de tes semblables qui n'êtes pas venus avec Ezra et Néhémia à l'époque du début du Second Temple, eh bien, comme la majorité des Juifs sont restés à Babylone, notre deuxième Géoula était petite par rapport à celle de l'Égypte. On n'a pas eu les miracles de l'Égypte. » Bon, Rabbi Zera se dit, c'est un vendeur de cornichons, qu'est-ce qu'il y connaît? Et le Talmud nous raconte qu'il rentre dans le Bet Amidrash de Rabbi Chia, le grand maître d'Eretz Israël, qui dit exactement la même chose. Il dit, c'est à cause de ceux qui ne sont pas revenus que la Géoula n'a pas été aussi resplendissante à l'époque du deuxième temple qu'elle l'a été à l'époque de la sortie d'Égypte. À ce moment-là, Rabbi Zera comprend son erreur et va faire un jeûne, mais pas un simple jeûne, 100 jours de jeûne. Il va prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il lui fasse oublier toute sa Torah qu'il a appris à Babylone pour que puisse rentrer en lui la Torah d'Eretz Israël. Quelle est cette Torah d'Eretz Israël? Eh bien, cette Torah d'Eretz Israël, c'est celle qui nous apprend à dévoiler la Kedusha, non pas seulement à la synagogue, évidemment, non pas seulement au Bet HaMidrash, évidemment, non pas seulement dans ma maison avec mes enfants, mais dans tous les domaines de la vie. La Torah d'Eretz Israël nous apprend que le chol n'est pas le profane, n'est pas l'alter ego du Kodesh, que le chol est l'endroit où le Kodesh peut la roule. Quand on dit « Rosh Chodesh chal beyom revi'i », cela veut dire « Rosh Chodesh tombe, réside mercredi ». Chol, c'est l'endroit où le Kodesh peut résider. Et voilà l'enseignement que Rabbi Zera nous donne lorsqu'il arrive en terre d'Israël. À bientôt, les amis!